Radio Courtoisie,
indépendance totale.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Bonjour David Engels.
Bonjour Richard.
Alors, vous avez décidé de nous parler des 64 millions d'immigrés non européens de première génération, dont Maëlys Kozel nous a déjà un peu parlé ce matin.
Oui, tout à fait. C'est un véritable déluge dont nos élites politiques et hélas la majorité de nos électeurs portent l'entière responsabilité. Alors pour vraiment se rendre compte des proportions, il faut se dire que ces 64 millions de personnes sur le sol européen, c'est l'équivalent d'un nouveau grand État européen, de la taille de la France ou de l'Italie, ajouté à l'ensemble déjà complexe des populations de notre continent en quelques années seulement. Et ces chiffres ne concernent évidemment que la première génération d'immigrants. À cette masse s'ajoutent naturellement des dizaines de millions d'individus de deuxième et de troisième génération, souvent naturalisés, mais arborant fréquemment des identités culturelles profondément non européennes. Un tel phénomène n'a guère d'équivalent dans l'histoire européenne. Alors certes, notre continent a toujours connu des migrations, dira-t-on, les grandes invasions de l'Antiquité tardive, l'arrivée des Hongrois, les conquêtes des Vikings, les déplacements de peuples à l'époque moderne ou encore les migrations internes liées à l'industrialisation. Mais jamais encore ces mouvements n'ont atteint une telle intensité dans un contexte en plus de prospérité relative et de paix intérieure. Historiquement, les migrations massives accompagnaient généralement des catastrophes, des famines, des conquêtes ou des effondrements politiques. Aujourd'hui, elles s'inscrivent paradoxalement dans un contexte où les élites politiques affirment vouloir préserver la stabilité et la prospérité du continent par la migration. Alors il serait tentant d'interpréter ces évolutions comme un simple produit de la mondialisation, du déclin démographique ou des nécessités économiques. Pourtant, l'attitude d'une partie significative des élites occidentales face à ces transformations laisse entrevoir une dimension idéologique beaucoup plus profonde. Alors que de plus en plus de citoyens s'interrogent sur la capacité réelle d'intégration culturelle d'un tel afflux, les milieux au pouvoir persistent à nier l'ampleur du phénomène ou, plus radicalement encore, à l'encourager ouvertement. L'argumentation avancée est bien connue et généralement toujours la même. L'acceptation de l'immigration de masse serait la seule possibilité d'effacer les tares du colonialisme. Le métissage généralisé serait une richesse en soi. Toute interrogation sur les limites d'absorption d'une civilisation relèverait d'une nostalgie réactionnaire, etc., etc. Et pourtant, une telle vision semble ignorer un fait fondamental de l'histoire humaine. Les civilisations ne sont jamais des abstractions neutres, mais des réalités organiques façonnées par des siècles de croyances, de traditions, de continuités ethniques et de structures sociales. Les sociétés qui ont survécu dans la durée ne l'ont pas fait en dissolvant leurs fondements identitaires, mais en les consolidant et en les transmettant. L'idée selon laquelle un melting pot universel constituerait le stade ultime du progrès humain relève donc davantage d'un genre d'idéal abstrait extrêmement dangereux que d'une observation empirique sur le terrain de l'histoire. Face à cette absurdité indéniable, certains critiques voient dans la dynamique actuelle une stratégie explicite. Créer des faits accomplis, démographiques, si massifs qu'aucun retour en arrière ne soit possible. Dans cette perspective, l'immigration ne serait plus seulement un phénomène socio-économique incontournable, mais un instrument politique cynique visant à redéfinir durablement l'équilibre des sociétés européennes. Ainsi, le remplacement d'une population homogène par des groupes en conflit permanent et dépendant dès lors d'un État sécuritaire, autant que d'un système d'allocation sociale surdéveloppé, garantirait un support durable pour l'élite politique à la tête de cet équilibre instable. Et en effet, force est de constater que l'accumulation des flux migratoires produit des transformations irréversibles dont les conséquences dépasseront largement les générations actuelles et qui risquent de mener tôt ou tard à des conflits gravissimes, voire des guerres civiles, à la marginalisation démographique de la droite patriotique et à la banalisation de l'État sécuritaire.
Alors justement, dans ce contexte, on vient de renouveler l'accord qui lie la France et le Royaume-Uni pour tenter d'endiguer les traversées de migrants illégales. L'attractivité de la France comme pays de transit a d'ailleurs été saluée comme une avancée majeure dans la reconquête du contrôle des flux migratoires.
Oui, sur le papier, cet accord représente en effet un pas dans la bonne direction, un renforcement La coopération policière, financement accru des dispositifs de surveillance, mécanismes destinés à réduire les activités des passeurs, etc. Cependant, une analyse un peu plus lucide conduit à relativiser très fortement la portée de cet accord, car il s'agit, pour reprendre un dicton belge, je sais, peut-être aussi français, je ne sais pas, d'un pansement sur une jambe cassée. Le problème des traversées clandestines de la Manche n'étant que la manifestation visible d'une crise dont les origines se trouvent ailleurs, la porosité structurelle voulue par nos élites des frontières extérieures de l'espace Schengen. La Méditerranée demeure aujourd'hui une frontière toujours largement incontrôlée, tandis que la route des Balkans continue de fonctionner comme un corridor migratoire majeur. Et quiconque tenterait d'imposer un contrôle plus strict, comme Meloni l'a essayé, ou évidemment Orban, se trouve accusé de crimes contre l'humanité. À cela s'ajoutent des décisions nationales qui contribuent à amplifier le phénomène. L'Espagne envisage ainsi la régularisation d'un demi-million de migrants clandestins, lesquels acquérant mécaniquement la possibilité de circuler dans tout l'espace européen, alors que l'Allemagne, principal aimant de ces flux migratoires, continue de poursuivre sa politique suicidaire des portes ouvertes, bradant la nationalité allemande chaque année à des centaines de milliers de réfugiés et continuant d'importer, souvent par voie aérienne, des innombrables nouveaux migrants, surtout venant d'Afghanistan. Dès lors, l'espace Schengen, conçu pour faciliter la mobilité interne entre des sociétés relativement homogènes, se transforme progressivement en un système où les décisions d'un seul État ont des répercussions immédiates sur tous les autres. La difficulté réside donc moins dans la surveillance d'un seul point précis à l'intérieur de l'espace Schengen que plutôt dans la cohérence globale du système. Tant que les frontières extérieures demeureront insuffisamment protégées et que des régularisations abusives continueront d'être décidées unilatéralement, les accords ponctuels ne pourront qu'atténuer très temporairement les symptômes sans traiter la cause du problème.
Alors, ce problème paraît si vaste, voyez-vous une possibilité de renaissance européenne ?
Difficile à dire, car en général, il y a deux tentations opposées qui menacent toutes les deux l'avenir du continent. La première, celle du wokisme, consiste à persister dans l'illusion technocratique selon laquelle des ajustements administratifs et le renoncement volontaire à une identité civilisationnelle forte suffiraient à contenir ou en tout cas à gérer les transformations en cours. La seconde, celle des souverainistes, est de renoncer au projet européen et de retourner à une mosaïque d'États-nations isolés, protégeant du moins leurs frontières nationales, vu que l'Union européenne semble incapable de surveiller les frontières continentales. Alors, aucune de ces options ne me semble offrir une solution viable, comme vous le savez. Une Europe qui abandonne son identité civilisationnelle va droit au suicide. Une Europe fragmentée en une trentaine d'États concurrents serait extrêmement vulnérable face aux grands ensembles géopolitiques contemporains, qu'il s'agisse des États-Unis, de la Chine, de la Russie ou d'autres puissances émergentes, car dans un monde structuré de plus en plus par des blocs continentaux, la survie politique et économique exige une certaine masse critique que seules des structures supranationales peuvent fournir à l'Europe. Mais cette forteresse européenne ne peut être seulement un espace économique ou administratif, elle doit surtout redevenir une communauté consciente de ses racines historiques, de ses traditions culturelles, de sa foi et de ses responsabilités politiques. Une Europe forte ne signifie pas une Europe uniformisée, mais une Europe capable de défendre ses frontières extérieures tout en préservant la liberté de circulation intérieure et évidemment la subsidiarité nationale et régionale qui constitue l'un de ses acquis les plus précieux. Dans cette perspective, il va de soi qu'il faudra procéder à un arrêt immédiat de l'immigration, à un renvoi systématique des clandestins, à une réappréciation critique du statut des immigrés légaux. Mais ce sera loin, très loin d'être suffisant, sans incitatif à la remigration de ceux qui refusent de s'intégrer, sans pression massive sur les États à l'origine des flux migratoires, sans politique forte d'assimilation civilisationnelle. L'Europe cessera à tout jamais d'être un espace civilisationnel digne de ce nom et se transformera en théâtre de guerre civile et d'usurpation autoritaire. Reste dès lors une interrogation essentielle qui dépasse évidemment les considérations techniques. Existe-t-il encore parmi les élites politiques européennes la volonté et le courage nécessaires pour entreprendre un tel redressement ? À observer les tendances actuelles, la réponse semble incertaine, voire plutôt négative. les intérêts divergents des États, les pressions politiques venant de l'Union européenne elle-même, l'impact idéologique du wokisme et la force de groupements obscurs rendent toute réforme profonde extrêmement difficile à imaginer. Et il est fort à craindre que les partis patriotiques n'arriveront au pouvoir qu'au moment où la situation sera de toute manière irréversible, écrouleront rapidement sous la responsabilité d'un échec dû à leur adversaire finalement.
Eh bien, c'est sur cette note de pas vraiment espoir que nous allons terminer cette chronique. Merci beaucoup David Engels et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Au revoir.
Ligne droite, l'analyse.
Et l'analyse se fera avec donc Charles Danjou, qui revient d'un voyage en Iran et qui, en ce moment, si je ne m'abuse, est aux Émirats. Bonjour Charles Danjou.
Bonjour, bonjour à tous, merci de m'accueillir.
Et voilà, donc je rappelle que vous êtes le président fondateur d'Omerta et que, comme d'habitude, Omerta a décidé d'aller là où ça se passe. Et donc, racontez-nous ce que vous avez vu lors de votre voyage oriental.
Alors, c'était une immersion de 8 jours, donc à Téhéran, mais pas que, puisqu'on est allé, on a eu l'occasion de tourner, de travailler entre la frontière turque, la frontière arménienne et Téhéran, donc le nord-ouest du pays. L'idée étant de faire de comprendre quel est aujourd'hui l'état d'esprit, les conditions de vie et les perspectives d'une population qui a subi un mois de bombardement intensif, mais comme on a pu le voir, en fait, les bombardements ont été intenses, il y a eu des pertes dans les infrastructures, ça a touché la population. Mais l'essentiel quand même du tissu, je dirais, économique et urbain à Téhéran est totalement intact. Et donc, ce qu'on a pu voir, c'était une société iranienne plus complexe que ce qu'elle est décrite dans les médias mainstream depuis, pas seulement depuis cette guerre, mais depuis en fait 10 ou 15 ans. Et puis, les changements que la guerre a provoqués au sein de cette population iranienne et la résistance aujourd'hui, dont la résistance et la résilience dont elle fait preuve, alors que l'accord de paix n'est toujours pas signé, que ça risque de prendre du temps.
Quand vous dites une société plus complexe, qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire très concrètement, quand vous êtes à Téhéran, et je le dis parce que je fais un peu mon mea culpa, parce que j'avais moi-même été un peu intoxiqué par la propagande mainstream, quand on arrive à Téhéran, en fait, par exemple, une femme sur trois n'est pas voilée et est vêtue complètement à l'occidentale. Et vous avez des endroits, donc dans les rues de Téhéran, qui ressemblent aux rues d'une grande mégalopole internationale. Quand vous êtes à Téhéran, vous êtes à Bakou. Pour ceux qui connaissent, en Azerbaïdjan, vous êtes à Dubaï, vous êtes à New York, sans l'alcool et le reste. Mais c'est une ville totalement moderne au niveau des infrastructures. Mais alors, donc, une femme sur trois est une femme occidentalisée et elles répondent aux questions sans aucun problème. Il n'y a pas de Basidji ou de gardiens de la Révolution qui font la chasse aux femmes non voilées comme ça. Vous les retrouvez en train de fumer le narguilé, aux terrasses des cafés, en train de consommer. Dans les malls aussi, il y a des centres commerciaux qui sont, dans lesquels il est difficile de trouver des femmes voilées ou des religieux. Donc voilà, donc cette société, en fait, elle est beaucoup plus complexe. Vous avez une partie qui est, conservatrice religieuse. Là, vous les identifiez bien, parce qu'évidemment, il y a le port du vêtement religieux, et puis il y a des ports de signes distinctifs pour les hommes. Mais ça, d'ailleurs, on a un peu de mal à quantifier. Si je devais quantifier, je dirais que au moins un Iranien sur trois à Téhéran, et vous pourriez le croiser dans les rues de Paris ou en Europe sans y faire attention. Voilà. Donc ça, c'est beaucoup plus complexe. Et en même temps, ce qu'ils vous disent quand vous leur parlez d'un petit peu justement de la cohabitation, parce que c'est quand même, vous avez d'ailleurs, les occidentalisés sont plutôt ceux de la classe moyenne ou de la petite ou de la moyenne bourgeoisie. Ils vous disent qu'aujourd'hui, effectivement, eux ont une vision un peu différente des choses. D'ailleurs, c'est pas forcément parce qu'ils sont occidentalisés qu'ils sont athées ou complètement laïcs, mais ils vous disent qu'aujourd'hui la guerre d'agression américano-israélienne a ressoudé la population et qu'eux soutiennent aujourd'hui le pouvoir politique qui aussi de son côté, ça on l'a bien senti puisqu'il y a eu des manifestations il y a quelques mois, on a bien senti que le pouvoir politique avait compris qu'il fallait renforcer, je dirais, l'unité de la nation derrière le drapeau iranien et on sent que vis-à-vis de cette population occidentalisée qui a peut-être été un peu délaissée par le passé, les choses sont, quelque part, sont revenues dans l'ordre et que, ils ont à nouveau toute leur place. Voilà. Donc, ça l'est confirmé par des… Je vous dis, quand on était à Téhéran et puis qu'on allait faire des micro-trottoirs, ces gens, que ce soit femmes et hommes, répondaient vraiment sans aucun problème, face caméra. Jamais on nous a demandé de flouter la voix ou de flouter le visage, etc. Et jamais on a vu justement une chasse à ces femmes ou à ces hommes qui d'ailleurs sont occidentalisés, mais gardent quand même des valeurs patriotiques, même nationalistes, et un attachement spirituel qui est quand même extrêmement prégnant.
Amélie Chély, à l'antenne de Radio Courtoisie, de Ligne Droite, il y a quelques semaines, nous disait que c'était justement les éléments les plus conservateurs qui avaient repris confiance dans leur pays et que l'agression israélo-américaine avait en fait obtenu un effet différent de celui qui avait été prédit par Benjamin Netanyahou. Au lieu d'assister à la dislocation en fait de l'Iran en différentes communautés, au contraire, toutes les communautés s'étaient ressoudées face à l'agression extérieure. Donc vous le confirmez?
Oui, je crois que… Alors, du côté de Netanyahou, je ne sais pas si c'est de la naïveté, une erreur d'analyse ou le fait qu'il ait toujours su et qu'il ait voulu un peu intoxiquer Donald Trump, parce que l'objectif peut-être pour Netanyahou était de détruire le plus possible l'Iran, d'affaiblir le plus possible l'Iran pour 10 ans. Mais en tout cas, c'est vrai que moi, le président américain n'a pas compris que décapiter le pouvoir politique et le pouvoir militaire, parce qu'il y a vraiment beaucoup de hauts responsables qui sont morts dans les bombardements, ça n'allait pas provoquer l'effondrement du pouvoir politique, l'effondrement de la nation iranienne, pour, à mon avis, deux raisons. La première, c'est que il y a le…
Eh bien, voilà, ce sont les dangers du direct. Donc, Charles Donjou, qui est toujours en train de poursuivre son périple en Orient, nous a inopportunément quittés. Donc, je vais faire comme d'habitude, c'est-à-dire essayer de meubler pendant que la technique s'affaire à retrouver la connexion. C'est tout à fait fascinant puisque donc quand on va sur les réseaux sociaux, il y a effectivement, et notamment par exemple sur LinkedIn, des Iraniens qui depuis des années nous montrent des photos de leur pays, nous montrent des vidéos de leur pays, où il y a cette espèce de dissonance entre l'image qu'on nous donne de l'Iran et à laquelle j'adhère pour ma part. Les mollahs sont un régime particulièrement féroce. On sait qu'il y a eu des répressions. On sait que ça a été une révolution sanglante. On sait que les différentes forces militaires et paramilitaires règnent avec une main de fer sur la population. Et néanmoins, évidemment, il y a une petite et une moyenne bourgeoisie qui réussit à s'épanouir. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'un livre tout à fait fascinant qui était sorti aux éditions du Cerf il y a quelques années, et nous avions reçu son auteur sur Radio Courtoisie, avec l'idée que les régimes totalitaires, en fait, réussissent immanquablement à produire des classes intermédiaires qui sont satisfaites de leur sort. Pourquoi ? Parce que, évidemment, ce régime a besoin de s'appuyer sur des courroies de transmission, ce régime a besoin d'une infrastructure, et bien cette infrastructure, elle existe, et donc il y a une classe moyenne qui surgit au milieu de tous les totalitarismes, et pour qui, justement, ce totalitarisme, et l'auteur prenait des exemples du communisme et du nazisme, n'est pas du tout quelque chose d'insupportable, mais au contraire, une opportunité, comme on dirait aujourd'hui. Je crois que Charles Donjou est revenu en ligne, mais que nous l'avons uniquement par téléphone. Charles Donjou ?
Oui, c'est bon, je suis à nouveau connecté. Pardon pour l'incident
pardon.
Technique.
Je vous en prie. Il y a cette différence incroyable entre ce qu'on imagine de l'Iran, ce qu'on nous montre, et malgré tout, c'est vrai, on a vu des images de répression qui avaient l'air tout à fait féroces, avec des dizaines de corps installés devant les morts. Il y a des témoignages qui ont été relayés par les médias anglo-saxons qui ne sont pas susceptibles d'être des médias extrémistes de droite, qui sont au contraire plutôt des médias libéraux, comme on dit là-bas, autrement dit des médias de gauche. On a bien en tête les différentes révoltes qui ont eu lieu avec ces femmes iraniennes qui refuse de porter le voile. Est-ce que Téhéran est un cas à part? Et est-ce qu'ailleurs en Iran, la société est beaucoup plus corsetée que ce que vous avez vu?
Alors, sur les manifestations, bon, nous n'y étions pas à ce moment-là. Ce qui est sûr, c'est que c'est un peu comme en 1979, si on parle des dernières manifestations. Les manifestations ont été lancées pour un problème de vie chère. Le problème de la vie chère, c'est le problème qui est lié aux sanctions économiques qui sont imposées notamment par les Américains sur l'Iran depuis plus de 15 ans. Donc, ça a démarré là-dessus, mais à ce mouvement de contestation un peu légitime pour le prix du pain, en gros, eh bien, se sont greffés des éléments là plutôt révolutionnaire, et là évidemment, je veux dire, c'est un grand classique. En France, vous avez les manifestations des Gilets jaunes qui dérivent parce qu'elles sont infiltrées par les Black Blocs, et bien en Iran, il y a eu à peu près le même phénomène, sauf que la répression en Iran, lorsqu'effectivement il y a un début de poussée révolutionnaire, et de coup d'État, eh bien elle est brutale. Maintenant, les chiffres qui ont été avancés ne sont pas vérifiables, je tiens à le dire. La presse occidentale a parlé de 30 000 morts, il n'y a aucune source qui permette de faire la comptabilité. Mais évidemment, on sait que la répression a été brutale. Ce qu'il faut.
Oui, parce que le gouvernement iranien lui-même a avancé le chiffre de 3117 morts, ce qui est quand même assez faramineux.
Exactement. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'Iran, en fait, est la cible de l'État israélien et des États-Unis depuis très longtemps. En réalité, ces deux puissances cherchent à faire, c'est à changer le régime. Donc, elles ont essayé, évidemment, ces manifestations spontanées avec des éléments violents, etc., ne viennent pas de nulle part. D'ailleurs, quand la guerre a commencé, Donald Trump et puis Benjamin Netanyahu ont expliqué qu'ils armaient et qu'ils finançaient l'opposition pour qu'elle prenne le pouvoir dans la rue, etc. Là, ça ne s'est pas passé parce qu'évidemment, c'est assez facile de commander à distance et d'envoyer de l'argent, mais c'est moins facile de sortir quand en face on a des gens qui ne plaisantent pas et qui ne vont pas laisser faire le coup d'État. Donc c'est la raison pour laquelle ça a échoué. Ce qu'on peut souligner aussi, c'est l'absence d'opposition. Il y a le fils de l'ancien Shah d'Iran, enfin qui est considéré, dont personne ne vous parle dans la rue à Téhéran. Évidemment, même quand vous êtes sans votre fixeur, quand vous êtes dans un café, vous parlez à la table d'à côté, personne ne vous parle du fils du Shah d'Iran. Et pourtant, je dirais, dans les médias occidentaux, il fait figure un peu de solution politique pour l'Iran d'après les mollahs. Aujourd'hui, ce qu'on sent, vous l'avez dit, c'est que cette guerre, en fait, elle a touché le cœur de la nation iranienne, au-delà des divergences politiques et des sensibilités et de l'appartenance à une classe ou à une autre. Ça a touché l'identité, la fierté iranienne. Et l'Iran, ce n'est pas un pays du Moyen-Orient anodin. L'Iran, c'est évidemment une civilisation, mais c'est aussi une nation qui est une nation de scientifiques, qui est une nation industrielle, qui est une nation de diplomates, qui est une nation vraiment avec des forces et des ressources énergétiques, des ressources minières, etc., qui en fait, sur le papier, a tout pour devenir peut-être la première puissance régionale. Et les Iraniens savent que après des années et des années de sanctions, à distance, chercher à leur imposer comme ça une espèce de changement de régime avec des paroles qui sont extrêmement humiliantes. Je veux dire, Donald Trump, lorsqu'il a parlé de cette guerre en Iran, a dit qu'au bout de 5 jours, c'était terminé, que c'était une victoire totale, etc. Tout ça, ça a poussé les Iraniens, pas seulement les militaires, ça a poussé les Iraniens à résister, à faire bloc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré tout, après un mois et demi de déclarations dithyrambiques criant la victoire tous les jours, Donald Trump est obligé d'aller à la table des négociations parce que l'invasion au sol par les troupes américaines est impossible, le changement de régime est impossible, et les Iraniens ont prouvé qu'ils pouvaient non seulement bloquer le détroit d'Ormuz, mais aussi déstabiliser toute l'économie, notamment les infrastructures énergétiques, des alliés des États-Unis, c'est-à-dire Qatar, Émirats, Arabie Saoudite, Koweït, etc. Donc, les Iraniens, en fait, tiennent aussi parce qu'ils ont eu des victoires sur le terrain. Ces essaims de drones Shahed et de missiles balistiques qui touchent le Tel Aviv, Haïfa et les pays du Golfe, et les bases américaines, pour eux, quelque part, ça a été le signal déjà d'une demi-victoire. Et comme c'est un pays qui est obligé d'encaisser, ayant eu ses victoires sur le terrain, il n'est pas prêt de lâcher pour les négociations. Et un point très intéressant et crucial pour comprendre ce qui se passe, c'est que les négociateurs aujourd'hui, ils ont la pression de la rue iranienne. S'ils négocient un mauvais accord de paix, un accord de paix au rabais, ça ne leur sera pas pardonné. Et je dis ça parce que dans la tête des Iraniens, l'aspect fierté nationale, ils ont conscience que le monde entier les regarde et qu'ils peuvent sortir de cette guerre qu'ils n'ont pas choisie, la tête haute, et donc redémarrer autre chose avec les demandes sur les demandes qu'ils ont formulées pour les pourparlers. Ils ont conscience que déjà, simplement pour leur image, ils sont le seul pays qui ont résisté aux États-Unis depuis 1945. Voilà. Et ça, pour eux, ça n'a pas de prix.
Alors, ils sont le seul pays à avoir résisté. Enfin, il y en a deux ou trois autres qui ont même... le Vietnam, par exemple, ça a plutôt bien marché.
Excusez-moi, avoir empêché une invasion au sol. Okay. C'est le seul pays qui a empêché l'armée américaine de débarquer sur son sol.
Revenons sur la manière dont les choses se passent à Téhéran. Ça me rappelle la manière dont on nous parlait de Damas en Syrie au moment des débuts de la guerre en Syrie, où on nous expliquait que Damas était ravagé de fond en comble et que pas un seul quartier n'était debout. Et des images satellites avaient débarqué, notamment à la télévision française, où on voyait qu'au contraire, une partie de Damas était intacte et qu'il y avait des habitants de Damas, des Syriens, qui effectivement faisaient leurs courses et allaient au café. On a un peu la même impression en vous entendant, c'est-à-dire... Il y a des endroits qui ont été dévastés, et il y a ces écoles qui ont été détruites, il y a ces monuments qui ont été abîmés, il y a ces infrastructures qui ont été visées et atteintes, et il y a à côté une population qui, malgré la crise économique, a l'air de continuer à vivre, non pas dans l'insouciance, mais en tout cas à mener une vie relativement normale, comme les Londoniens sous le Blitz.
Alors c'est exactement ça. Il faut savoir que le pays est vraiment très grand. Et les frappes américaines, elles ont eu lieu à Téhéran, mais elles ont eu lieu vraiment dans tout le pays. Ce qui fait qu'effectivement, dans la capitale, vous avez... en fait, pour trouver les immeubles détruits, il faut vraiment savoir où ils se trouvent. Il faut vraiment avoir les coordonnées GPS, savoir dans quelle rue, etc. Parce que c'est évidemment impressionnant, mais il n'y a pas des quartiers qui sont ravagés, comme on a vu effectivement à Alep, etc. Pas du tout. Les frappes à Téhéran, c'est deux missiles qui détruisent trois barres d'immeubles. Et les trois barres d'immeubles sur une ville qui compte 10 millions d'habitants, on imagine bien que c'est quand même c'est important. Mais je veux dire, on n'est pas du tout sur une ville qui est ravagée ou dont on peut sentir qu'elle a subi des bombardements. Quand vous entrez à Téhéran en voiture, en fait, c'est une... Vous ne pouvez pas savoir qu'il y a eu des frappes américaines ou israéliennes sur la ville. Ça concerne seulement certains quartiers. Après, les frappes, elles ont été très nombreuses, mais elles ont été très nombreuses parce que en fait, les infrastructures de défense iraniennes, elles sont disséminées sur tout le territoire. Donc, même en ayant bombardé des milliers de fois, des milliers d'objectifs, effectivement, la capitale iranienne est quasiment intacte. Il y a quelques destructions qui sont spectaculaires, notamment un pont en sortie de Téhéran. Là, effectivement, c'est spectaculaire. Bon, quand vous voyez trois barres d'immeubles qui sont ravagées, dont les murs sont tombés, des immeubles qui faisaient 10 étages, c'est spectaculaire. Il y a des destructions, il y a des morts, mais ça fait relativiser, si vous voulez, le même avec des milliards de dollars et tout l'arsenal, les trois porte-avions, etc., ça fait relativiser la capacité des Américains, même en y mettant le paquet pendant encore 6 mois, ce qu'ils ne peuvent pas faire, à mettre à genoux ce pays. C'est pas du tout, on n'est pas du tout dans le cas de l'Irak ou de la Syrie. L'Iran est un pays qui géographiquement déjà est protégé et qui a des capacités de défense et qui a une population qui est prête. Il faut rappeler quand même que l'Iran, c'est l'ennemi public numéro un quasiment du monde occidental, peut-être avec la Russie, avec d'autres, mais il est tout en haut de la liste depuis 1979. Donc la population était prête. Et comme vous l'avez dit, le mauvais calcul de Donald Trump, c'est d'avoir pensé que éliminer les chefs politiques ferait descendre les gens dans la rue. Ça a eu exactement l'effet inverse, parce que c'est vécu comme une humiliation de la part de Donald Trump.
Alors, dans votre périple oriental, vous n'êtes pas resté en Iran, vous êtes allé aussi aux Émirats, vous êtes en train d'ailleurs de le faire, ce périple. Comment les autres pays réagissent-ils en étant des victimes collatérales, comme diraient les États-Unis, du conflit israélo-américano-iranien. C'est-à-dire que on se retrouve avec des pays qui accueillaient des bases américaines, qui sont censés être protégés par les Américains et qui ont été choisis comme cibles par l'Iran pour punir, entre guillemets, ces alliances, pour bien montrer aux États-Unis que la protection qu'ils sont censés accorder n'était pas valable. Et donc, se retrouver entraîné dans la guerre malgré soi, sans capacité de riposte, doit être extrêmement irritant pour ces pays-là.
Oui, bah écoutez, ils ont été touchés parce qu'effectivement, il y avait de la présence de bases américaines. Ils ont été aussi touchés, pour certains, dans leurs infrastructures énergétiques. Et là, ils payent effectivement, ils sont des victimes collatérales de l'initiative américaine et de la réponse iranienne. Il faut souligner aussi que l'Iran avait quand même, dans les négociations qui étaient en cours, l'Iran a beaucoup fait depuis 5 ans pour essayer de rétablir des relations normales avec son voisinage. Il y était arrivé avec l'Arabie Saoudite et la décision américaine, elle finalement, du point de vue iranien, elle ne leur a pas laissé le choix parce que c'est non seulement des objectifs militaires, mais c'est surtout, parce que en parallèle de cette guerre avec l'aviation, avec tout le dispositif militaire des deux côtés, c'est surtout une guerre de communication. En fait, les Iraniens ne pouvaient pas laisser les Américains bombarder sans avoir de réponse. Et plutôt que de bombarder, évidemment, à tout va et sans distinction, ils ont choisi les bases américaines et ils ont choisi des infrastructures vitales parce qu'ils se sont dit que pour arrêter Donald Trump, pour le forcer à s'asseoir à la table des négociations, eh bien, il fallait que les alliés des Américains subissent des pertes, des dommages, et quelque part que l'économie mondiale aussi soit menacée. C'est la raison pour laquelle ils ont mis le paquet sur le détroit d'Ormuz, ils ont mis le paquet sur les terminaux gaziers du Qatar, etc., qui ont été très endommagés. Ils ont mis le paquet sur les bases américaines qui ont été évacuées. Les soldats américains, moi je l'ai vu, ont été relogés dans des hôtels, ont été disséminés dans les hôtels pour pouvoir travailler sans être repérés. Ça fait partie de la victoire de communication de l'Iran. Et c'est ce qui lui permet aussi aujourd'hui de pouvoir discuter avec Donald Trump, c'est que ses alliés du Golfe, les alliés des Américains, vu la situation, vu le blocage du détroit d'Ormuz et les déclarations de Donald Trump, en fait, c'est toujours du yo-yo, c'est-à-dire que tout va bien, mais en fait, tout est toujours bloqué. Eh bien, mettent certainement une énorme pression sur le président américain en disant que ça ne peut plus continuer. Et d'ailleurs, ça pourrait, l'engrenage pourrait se poursuivre. Si les bombardements reprennent, les Iraniens ont déjà prévenu, et si les infrastructures civiles comme les centrales électriques iraniennes sont touchées par des bombardements américains, ça a été évoqué par Donald Trump comme une possibilité pour mettre un peu plus de pression. Les Iraniens ont dit qu'ils s'attaqueraient aux centrales de désalinisation, aux usines de désalinisation des pays du Golfe. Et je rappelle que contrairement à l'Iran, qui a des fleuves, qui est un pays qui a de l'eau potable, qui a de l'eau douce, ces pays du Golfe n'ont pas d'eau. En fait, l'eau potable, elle provient de la désalinisation de l'eau de mer. Donc si ces centrales sont touchées, sont endommagées, sont détruites, vous imaginez la situation dans ces États, alors que là, les températures sont à 30 degrés, mais que dans un mois, elles seront quasiment à 40. Voilà, donc il y a tout ça, et encore, on n'a pas fléché tous les paramètres, et il y a certainement bien d'autres choses. En réalité, cette région du monde, elle, contrairement à la guerre en Irak, elle fait pression aujourd'hui sur Donald Trump pour qu'il y ait un accord de trouvé, parce qu'en fait, à moyen terme, c'est pas tenable.
Votre sentiment, après être passé dans ces différents pays, c'est que la guerre est gagnée, la guerre est perdue, que l'Iran va réussir un tour de force, c'est-à-dire d'amener les États-Unis à la table des négociations, avec bien sûr Trump qui expliquera qu'il a remporté une victoire incroyable, non pareille et que personne n'avait jamais vue, mais ou au contraire que l'Iran ne va pas sortir intact ni vainqueur de cette affaire parce que Israël et les États-Unis veulent poursuivre leur opération.
Moi, je crois qu'il y avait deux options pour l'Iran. Soit l'Iran disparaissait, il y avait un changement de régime, il y avait une invasion, etc. Et tout le système, le pays s'écroulait. Soit le pays sortait la tête haute et ouvrait une nouvelle page avec de nouvelles possibilités. Et je crois que les Iraniens se sont toujours dit, en tout cas, vraiment, ça a été un point de vue partagé systématiquement, c'est que les Iraniens ont dit, nous disaient, nous, de toute façon, on joue notre survie. Soit on s'écroule, et là, c'est un nouveau monde qui s'ouvre, soit on relève la tête et on va pouvoir écrire une nouvelle page de notre histoire et sortir un peu comme ça du, je dirais, de l'isolement total. Pour moi, c'est plutôt la deuxième solution, enfin, c'est plutôt la deuxième option qui est en train de se réaliser, parce que, je le disais, le problème de Donald Trump, c'est qu'il s'est engagé en se disant que, en sous-estimant la capacité de résistance iranienne, certainement parce qu'il n'a pas écouté, il n'a pas écouté les militaires, il n'a pas écouté la CIA, il n'a écouté, je pense que son gendre et son allié israélien. Et puis c'est quelqu'un aussi qui a une toute confiance, une pleine confiance dans les forces armées américaines, qui sait que les États-Unis sont la première puissance militaire du monde, etc., etc. Et sa méconnaissance du monde, en particulier du monde moyen-oriental, lui a fait considérer certainement un peu les Iraniens comme des ayatollahs en babouche, et que ce serait facile, et que les manifestations ayant eu lieu dans Téhéran, finalement, la population était à deux doigts de sortir et de faire la révolution. Malheureusement pour lui, tout ça ne s'est pas produit. Et malheureusement pour lui aussi, il est un habitué des déclarations intempestives et péremptoires, et le fait d'avoir tous les jours dit que le travail était quasiment terminé, que les États-Unis étaient victorieux, etc., etc., contredit par la réalité avec ses essaims de drones Shahed tombant un peu partout dans la région, y compris sur des bases américaines, les avions américains détruits en Iran, les deux C-130, les chasseurs américains qui tombaient en Iran. En fait, la réalité est venue un peu se fracasser son discours, et du point de vue de la communication, les Iraniens savent qu'ils ont déjà gagné. Parce que, je le redis, quel pays a résisté comme l'Iran aux États-Unis et à Israël? Aucun. Ça, ils le savent. Donc, aujourd'hui, la négociation via le Pakistan est très importante. Ça risque certainement de prendre du temps, mais les Iraniens n'ont pas le choix. Ils doivent sortir de cette séquence avec des victoires très concrètes, comme la levée des sanctions, par exemple, comme d'autres choses. Pour rassurer la population, le nucléaire iranien, le nucléaire civil, évidemment, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à négocier, mais c'est un point sur lequel les Iraniens ne lâcheront pas. Je le redis, j'ai discuté avec un négociateur iranien qui est au Pakistan. Lui, il dit, on n'a pas la pression de Donald Trump, on a la pression des Iraniens. On doit sortir de là la tête haute. L'Iran doit sortir de cette séquence, de cette guerre la tête haute. C'est ça, aujourd'hui, l'enjeu pour les Iraniens.
Alors, et il nous reste deux minutes. Et évidemment, l'une des tactiques mises en place par les États-Unis, c'est d'asphyxier économiquement l'Iran en lui supprimant la possibilité de vendre son pétrole. Et ça, c'est une espèce de course contre la montre, à la fois du côté des États-Unis qui ne peuvent pas soutenir leur effort de guerre et du côté de l'Iran qui perd 400 millions de dollars par jour. Ça fait partie des chiffres qui sont avancés. Pensez-vous que le conflit puisse durer encore longtemps ?
Non, alors d'abord sur l'Iran, c'est très intéressant ce que vous dites. Quand vous
Toujours.
Êtes à Téhéran, et c'est pareil en région, vous trouvez il n'y a pas de file d'attente devant les magasins d'alimentation, le bazar, les marchés sont pleins à craquer, vous trouvez des baskets Nike, vous trouvez du Coca-Cola, vous trouvez même l'enseigne Carrefour dans des malls iraniens, donc vous avez des voitures en quantité, etc. Donc ils ont trouvé comment contourner les sanctions par l'import parallèle et par la contrefaçon. Plus une production locale qui fait qu'il n'y a pas de famine en Iran. Ça n'existe pas. Donc, ce qu'il faut aussi voir, c'est le soutien, notamment le soutien chinois à l'économie iranienne, le soutien chinois à l'armée iranienne en fournissant les images satellitaires qui ont permis à l'Iran de cibler les bases américaines dans le Golfe, de cibler toutes les infrastructures. Sans cette aide chinoise, les Iraniens n'auraient pas pu manœuvrer. Donc, en fait, l'économie chinoise aujourd'hui, elle va se tourner, même si les sanctions sont levées, elle va se tourner vers la Chine et en partie vers la Russie. Voilà. Donc, à mon avis, la guerre ne peut pas continuer parce que elle devient trop compliquée pour Donald Trump, elle devient trop risquée pour Donald Trump. Et Donald Trump, qui a besoin et qui sortira de cette guerre en disant qu'il a gagné, aujourd'hui doit trouver la solution la moins mauvaise pour en sortir, parce qu'il s'est mis à taper sur un essaim, sur un nid de frelons avec un marteau. Pour détruire des frelons, on n'y va pas avec un marteau, on y va avec autre chose. Et il est exactement dans cette position. Il doit sortir de ce bourbier. Voilà. Les Iraniens, eux, ont du temps, et contrairement, et je le redis, c'est plus de 15 ans de sanctions. Les Iraniens ont une capacité de résilience, un peu comme les Ukrainiens et comme les Russes, qu'on a du mal à comprendre en Occident parce qu'on n'est pas fait exactement du même bois, psychologiquement.
Eh bien, merci beaucoup Charles Donjou pour cet aperçu du reportage d'Omerta. Évidemment, on se jettera dessus dès qu'il paraît. Merci.
Merci beaucoup.
Et voilà,
Bonne journée à tous.
À bientôt. Et tout de suite, la revue de presse de Gilles Brochat.
Aidez Radio Courtoisie à rester libre et indépendante. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque de soutien à Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75 016 Paris. Ligne droite, la revue de presse de Gilles Brochard.
Gilles, heureusement que vous êtes là, rempli de bonnes nouvelles, que vous êtes allé piocher dans les bonnes feuilles.
Bonjour Richard, bonjour chers auditeurs, bonjour Franck. Bonjour. Oui, l'actualité est bien chargée. Alors, évidemment, je ne parlerai pas de Donald Trump, on en a beaucoup parlé, mais je vais plutôt parler de la commission d'enquête sur le audiovisuel public et sur la sellette aujourd'hui, puisque la fameuse commission parlementaire présidée par Jérémy Patrier-Lettus, dont le rapporteur est Charles Lalonde, qui a mené 70 auditions et entendu 230 personnes, doit décider donc si le document de 369 pages, hein, c'est vraiment le nombre de pages exact, contenant quelques 80 préconisations jugées éruptives, comme l'écrit Le Parisien, pourra aboutir. Alors cela après 6 mois de travaux, 200 heures de débats souvent houleux, chaque camp politique possède des représentants au sein de la commission, écrit encore Le Parisien. Leurs députés ne se prononceront pas ce lundi sur le fond des propositions de Charles Lalonde, mais sur le caractère publiable du rapport. On verra donc si ce document pourra être publié une semaine plus tard, le 4 mai. Et donc de l'introniser dans le débat public. Ce que l'on sait déjà des mesures proposées, c'est 1 milliard d'économies sur les 4 allouées à l'audiovisuel public, disparition annoncée de France 5, suppression de 75% du budget des jeux et divertissements de France Télévisions, réduction de la couverture du Festival de Cannes, amputation d'une des formations musicales de Radio France et autres suggestions, interdire pendant 3 ans aux anciens dirigeants de France Télévisions de se convertir dans des sociétés de production ou redonner aux locataires de l'Élysée le pouvoir de nommer les patrons de l'audiovisuel après avis de l'ARCOM et des commissions parlementaires des affaires culturelles.
Eh bien, on sent que tout le monde va être d'accord avec ces propositions consensuelles. Quelle est la réaction du député de l'Hérault face aux attaques entreprises contre lui et contre son rapport ?
Alors, Charles Lalonde a répondu dans le dernier numéro du Jude News, que vous pouvez peut-être voir sur vos écrans si vous êtes sur YouTube. « Enterrer ce rapport serait une faute démocratique », clame-t-il, avant de dresser un constat à propos de l'opacité sur les comptes publics. Un communiqué du 13 mars 2025 évoquait encore une gestion rigoureuse, 9 années consécutives à l'équilibre. Or, quelques semaines plus tard, la Cour des comptes dresse un constat très différent. Plus de 80 millions d'euros de déficit cumulé entre 2017 et 2024, une trésorerie négative, des capitaux propres fragilisés. Et il demande alors, les Français, tous co-actionnaires de leur audiovisuel public, disposent-ils d'une information fidèle sur l'état réel de leur service public ? Et il n'est pas que dans le ressentiment. Hein. Je tiens à saluer l'engagement et le talent de nombreux professionnels que nous avons auditionnés. Il y a dans ces entreprises des milliers de salariés compétents, des journalistes rigoureux, des employés sincèrement attachés à leur mission d'intérêt général. Ce que révèle cette commission, ce n'est pas que l'ensemble de l'audiovisuel public serait à condamner, c'est qu'il existe en particulier au sein de France Télévisions une mécanique devenue trop lourde, trop opaque, trop dépendante d'intérêts extérieurs et surtout laissée trop longtemps sans contrôle ni cap clair. Et puis selon le Figaro, en page économie, Jérémy Patrier-Lettus, le président de la commission, a trouvé une solution pour minimiser les réactions négatives en cas de vote contre la publication du rapport. Il va proposer aux membres de voter en faveur du maintien en ligne de l'ensemble des vidéos et des comptes rendus des auditions, quelle que soit l'issue du vote. À la fois par souci de transparence et pour ne pas remiser aux oubliettes 5 mois de travail. Des députés pourraient alors ainsi autoriser la publication des 80 propositions de Charles Lalonde tout en interdisant celles du rapport.
Alors, pour changer de sujet, mais rester dans les trucs qui fâchent, oui. Boualem Sansal a été reçu à l'Académie royale de Belgique.
Alors, ça s'est bien et ça s'est mal passé. Hein. Oui, samedi dernier, à l'occasion donc de son intronisation au fauteuil 37, celui de Michel Del Castillo, l'auteur de La Nuit du Décret, magnifique livre d'ailleurs, prix Renaudot en 1981. Je n'ai jamais fait de littérature pour la littérature. Je me suis mis à écrire parce qu'à un moment donné, j'ai cherché à comprendre la dictature et la guerre civile qui sévissait en Algérie, confie-t-il aujourd'hui au Figaro. Alors, chacun utilise les moyens qui nous sont laissés pour cela. Certains sont politologues, d'autres journalistes. Moi, la littérature, c'est ma façon d'interroger le monde, poursuit l'écrivain. Mais surtout, Jeanne Durieux, qui a assisté à ce moment unique à l'Académie royale, rapporte son propos devant les académiciens. L'Académie célèbre la langue comme l'une des premières richesses de l'homme, mais elle défend aussi et surtout la liberté de penser et donc de choisir. Michel Del Castillo a écrit pour rester debout. Puissions-nous continuer, nous aussi, à écrire et à lire debout, c'est la seule posture digne pour l'homme. Et l'écrivain belge Jean-Luc Outers, son confrère à l'Académie, pas très élégant, n'a pourtant pu s'empêcher de référer lors de son discours d'accueil à la polémique qui a surgi il y a quelques jours à propos du limogeage du directeur de Grasset, son nouvel éditeur. Il a parlé d'un nouvel arrivant devenu malgré lui le héros d'une droite décomplexée, mettant en garde Boualem Sansal contre le péril de l'emprise de l'argent. Et la journaliste du Figaro d'ajouter qu'il y eut quelques grincements de dents entendus dans l'entourage de Boualem Sansal. Il se trouve que tout le comité de soutien a été présent et la fin du discours n'était pas très séante, glisse acerbe un de ses soutiens. Noël Lenoir, ex-ministre française des Affaires européennes et membre du comité de soutien de Boualem Sansal, est même sorti en furie de la salle, pestant contre un discours honteux. Et je vous renvoie à ses déclarations sur CNews qui vont très loin d'ailleurs.
Alors, quelle a été la réaction finalement de Boualem Sansal?
Pour Boualem Sansal, cette cabale, hein, il emploie le mot montée contre lui, a été orchestrée par des petits oligarques de la pensée, des petits dictateurs de bureau qui ont une forte capacité de nuisance, au point de songer tout haut au micro de LCI ce samedi à quitter la France. Les Français sont adorables, j'ai l'impression que je fais presque l'unanimité quand on vient me saluer dans la rue, mais je subis des attaques matin et soir, et la critique, j'ai l'habitude, je passe mes journées à critiquer. Mais là, on passe au stade de l'insulte. On me fait passer pour un criminel. Il faut donc que je m'évade, regrette-t-il avec un rire amer. Ils veulent me faire taire, mais je ne leur ferai pas ce plaisir. Je vais partir en Suisse, en Belgique, et de là-bas, je continuerai à les critiquer à longueur de journée. Nous verrons bien si son comportement se concrétisera ou s'il restera bien en France, surtout qu'il publie son livre, hein, rappelons-le, début juin, chez Grasset.
En tout cas, je lui conseille de ne pas critiquer l'islam en Belgique, ça n'a pas l'air d'être
oui,
le bon pays.
Absolument.
Vous avez lu un portrait de Jean-François Copé, ce héros dans Marianne.
Ah oui, alors oui, bah là, il est rhabillé pour l'année. Hein. Alors là, franchement, c'est assez savoureux, il est vrai, signé Étienne Campion. Alors, comme vous le savez, l'ancien ministre a publié récemment son livre « Quand les populistes trahissent le peuple », pourfendant autant le RN que LFI, rebaptisé des charlatans et auxquels il oppose ses chers docteurs, les partis de gouvernement. Les populistes, nous explique-t-il, jouent sur les émotions. Il faut bien se fabriquer quelques concepts pour ne pas avoir l'air de faire de la base politique. Il y a quelque chose de téléphoné à voir Copé recycler le vieux procédé de psychologisation, disqualification de l'adversaire qu'on a tant vu à l'œuvre lors des référendums sur Maastricht en 92 ou sur la construction européenne en 2005, tout en expliquant la main sur le cœur que tout ne va pas si mal et multipliant les appel du pied à Édouard Philippe, à qui il verrait bien livrer les derniers morceaux de LR non ralliés et non retailleuxisés. Alors, lequel Philippe, par un pur hasard de calendrier, a dit le plus grand bien du livre dans la Tribune Dimanche, ouvrage écoulé à 700 exemplaires, pardon. Voilà la belle promotion. Alors, on comprend qu'il faille sauver le soldat bloc central, comme l'appelle le journaliste de Marianne, mais cela mériterait une énième déclinaison de l'inénarrable cercle de la raison d'Alain Minc. Plus loin, Étienne Campion nous rappelle qu'en 2012, en défenseur autoproclamé d'une droite dite décomplexée, il s'indignait qu'on arrache la viennoiserie des mains des enfants pendant le ramadan, et il invoquait dans la foulée le racisme anti-blanc, puis réclamait en 2013 la suppression de l'aide médicale d'État. Bon, j'en dirai pas davantage, il faut lire le billet consacré à cette girouette décomplexée, entre guillemets, à la page 6 de Marianne. Je ne doute pas, mon cher Richard, que vous précipiterez à la sortie du studio pour lire ce papier.
À défaut du livre de Copé, sûrement. Vous voulez nous parler d'une exposition qui fait événement en ce moment au Louvre?
Oui, je ne sais pas si vous l'avez vue.
Si, je l'ai vue.
Ah, formidable.
Mais moi, j'ai aimé l'autre.
Bon, alors, alors là, elle est à,
j'ai aimé l'exposition sur le primitif flamand plus que sur Michel-Ange.
Voilà, mais alors, le titre de l'exposition n'étonnera pas trop les amateurs de sculpture puisqu'il s'agit, s'intitule Michel-Ange Rodin, corps vivant. Et on comprend vite que le grand sculpteur français n'a cessé de rendre hommage aux sculpteurs florentins. Et l'exposition dont parle Florence Colombani dans Le Point précise que si les statues de Rodin abondent, celles de Michel-Ange, évidemment, sont surtout conservées à Florence et à Rome, on n'a pas pu les déplacer, mais c'est donc surtout les dessins de Michel-Ange que l'on peut surtout donc admirer. D'impressionnantes sanguines, de corps musculeux ou têtes admirables, comme ce faune tracé à la plume d'une vivacité diabolique. Et de son côté, Auguste Rodin représente l'homme et sa pensée comme un homme agenouillé entre la prière et l'étreinte. Et comme l'écrit la journaliste du Point, c'est le fameux non finito de Michel-Ange, hein, ce bloc de marbre encore strié de coups portés à la pointe par le sculpteur, dont Auguste Rodin fait une esthétique. Ce qui les rapproche et qu'elle souligne dans l'article est leur fascination pour le corps humain, ces torses de terre cuite où le sculpteur Rodin laisse ses empreintes, comme la tête de Saint Jean-Baptiste apportée sur un plateau et qui font écho aux séances d'études de cadavres qui permirent à Michel-Ange d'acquérir, pardon, dit-on, son incomparable connaissance du corps humain. Et dans ce parcours croisé entre le XVIe et XIXe siècle, on croise justement, écrit Florence Colombani, des œuvres contemporaines de Zadkine, de Jan Asterbach, de Joseph Beuys, jusqu'à une vidéo en 3D de Bruce Nauman, où le corps mouvant de l'artiste se scinde en deux, allusion à l'enveloppe de peau que porte le Saint-Barthélemy de Michel-Ange sur le jugement dernier de la chapelle Sixtine, et puis la robe de chambre de Balzac, travaillé par Rodin, alors qu'on peut voir bien sûr au musée Rodin, et qui donne une impression saisissante, celle d'une enveloppe charnelle qui exprime l'âme. Voilà, c'est une exposition à ne pas rater au musée du Louvre jusqu'au 20 juillet.
Eh bien, merci beaucoup, Gilles. Voilà, vous avez tout lu, vous avez tout vu. Il ne reste rien. Mais voilà, donc vous avez vu Sean Goer ou pas alors?
Ben non, je ne l'ai pas vu.
Ben voilà, c'est juste à côté.
Il faut que j'aille la voir, absolument.
Il faut aller voir Sean Goer. Nous rentrons dans la zone libre.
Ouh là là.
Mais restez avec
nous.
Oui,
mais je reste.
Maïlis, alors.
Zone libre.
Oui, ben écoutez, en plus j'en profite qu'il y ait Gilles parmi nous pour vous parler un petit peu de haute gastronomie aujourd'hui, puisque figurez-vous qu'au Puy du Fou, eh bien il y a un nouveau chef triplement étoilé Michelin.
Drapeau, c'est
fait,
ça
non, son... non, pas du tout, il s'appelle Alexandre Couillon de la Marine.
Ah ben je le connais très bien, ah, il est voilà. À Noirmoutier, à l'Herbaudière, au port de l'Herbaudière.
Exactement, donc sa cuisine va énormément prendre des produits... issu du terroir vendéen.
C'est un des rares chefs à utiliser de l'encre de sèche. Alors, parfois, on se tâche les mains dans l'assiette, mais c'est un chef prodigieux, oui.
Mais formidable. Vous mangez avec vos doigts, Gilles?
Non, mais vous savez, on touche, on grignote.
Il a une vie dangereuse.
Je vous imagine comme ça, dans un restaurant 3 étoiles, en train de baffrer l'assiette, fourrageant à pleine main dans vos pâtes à l'encre de sèche.
Vous ne croyez pas si bien dire, parce que j'étais donc... Il y a quelques jours en Italie, à Sorrento. En français, et le chef qui a une étoile nous a servi en première partie que des amuse-bouches qu'on prenait avec les mains. C'était exceptionnel, des toutes petites tartes paysannes, des petites salades paysannes, des croquettes, des choses qu'on grignotait et qu'ensuite on passait au plat principal. Et j'ai trouvé ça dans des porcelaines absolument magnifiques. Il y a même un hommage à Giverny dans une coupelle en verre qui reproduit le fond des nénuphars, enfin de la mare où les nénuphars sont posés de Claude Monet. C'est absolument magnifique. Donc je vous montre les photos.
Oui, parce que vous m'avez montré une photo de vous à côté d'une magnifique Mercedes noire.
La noire, c'était une Ferrari des années 50.
Ah oui, pardon.
C'est pas les mêmes valeurs quand même.
J'ai failli partir avec, figurez-vous.
Mais voilà, heureusement, il l'a laissé. Et autre exposition, d'ailleurs, une exposition sur la porcelaine de Sèvres, une passion Rothschild au Mobilier National, avec des pièces 18e, mais qui sont absolument tomber par terre.
Ah oui, absolument. Et je conseille aussi aux éditeurs, évidemment, pour ceux qui ne le connaissent pas, d'aller à la manufacture de Sèvres, à Sèvres, qui est une des plus belles manufactures d'Europe, muséale, si j'ose dire. Et vous avez notamment des bols ou des porcelaines Raku, qui datent du 15e siècle, qui sont aussi modernes que celles d'aujourd'hui, quoi, ou l'inverse. Et ben, c'est extraordinaire, ben, parce que les maîtres potiers sont de père en fils des artisans, et c'est prodigieux.
Dans votre séjour au Puy du Fou, vous y êtes déjà allé ou pas encore ?
Alors, je suis déjà allée au Puy du Fou il y a quelques années, mais hélas, je n'ai jamais goûté la cuisine de ce chef qui a l'air absolument merveilleux. Ouais. Quel est votre chef étoilé préféré, Gilles ? Si vous deviez en dire un.
Bah, écoutez, moi, j'ai une petite tendresse pour Guy Savoie. Que nous avions reçu ici pour une émission de radio, une émission autour de la musique. C'est un esthète. Il fait partie, il est membre associé à l'Académie des Beaux-Arts maintenant, vous savez. Mm-hmm. Et c'est un homme absolument charmant, un puits de culture et de raffinement.
Est-ce que vous êtes déjà allé à l'Épicure, le restaurant du Bristol à Paris?
Oui, bien sûr, j'y suis allé, oui. Alors, pas le nouveau, j'étais du temps de Monsieur Fréchon.
C'est Arnaud Gaye, là, le nouveau, c'est ça ?
Exactement.
Oui, j'y suis allé samedi soir, c'était très bon.
Voilà. Écoutez, j'espère que vous avez été invité, ma chère Maïlys.
Ah oui, j'ai été invité, effectivement.
Bon, moi, samedi soir, j'étais à la maison.
Pareil, j'ai cuisiné moi-même.
Merci ma femme, c'était absolument délicieux.
Moi, je ne la remercie pas, c'est moi qui cuisine.
Ah.
Bon, ça y est, on a fait nos petits échanges, nos petits aveux personnels.
Non, mais il faut absolument qu'on ait une critique gastronomique régulière.
Mais d'ailleurs, chers auditeurs, si vous êtes partant pour que je fasse une petite critique gastronomique à chaque fois que je me rends dans un restaurant un peu haut de gamme ou même dans des restaurants un peu plus
bas de gamme,
parce que
à Paris, vous avez de la bistronomie, avez des restaurants étoilés,
c'est très très bon,
et vous en avez pour tous les prix, donc il n'y a aucun problème. Il faut savoir s'adapter, nous sommes des caméléons gastronomes.
Exactement.
Voilà, et je suis adepte pour ma part de C'est meilleur quand c'est bon.
Oui, très bien.
Excellente émission.
Emmanuel, je connais bien.
Excellent magazine, et qui défend une cuisine toute simple ou même parfois extrêmement complexe.
Des produits de terroir, des produits locaux ou des produits qui veulent dire quelque chose et qui sont transformés évidemment, mais si on parle de la blanquette, si on parle de même d'un couscous, je veux dire, il faut trouver les valeurs simples du début. Et puis quand on se met à table, moi j'aime bien quand les restaurateurs vous apportent des choses, vous savez, une petite rosette, un petit caviar d'aubergine sur un crouton.
Ça m'arrive jamais, ça, c'est marrant.
Voilà. C'est une zone libre qui nous a entraînés absolument ailleurs. Mais donc, merci beaucoup de vos témoignages et merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette zone libre. C'est aussi la fin de notre direct sur YouTube et sur X. Puisque vous avez été très content d'être avec nous, n'hésitez pas, faites en sorte que nous soyons encore là demain. Et Franck a une idée là-dessus.
Oui, j'ai une idée qui me vient comme ça, là, tout d'un coup. Et si vous faisiez un don à Radio Courtoisie ?
Mais quelle bonne idée !
Voilà, et pour le faire, eh bien, figurez-vous que nous avons une page spéciale sur notre site internet, soutenir.rc.fr, pour faire un don en ligne et permettre à Radio Courtoisie de continuer son combat, de continuer à défendre vos idées, et cela en toute indépendance, sans subvention et sans publicité. Un grand merci d'avance.
Eh bien, merci Franck. Et tout de suite, nous réécoutons l'excellent sujet qui a été traité par Julie Solveig, notre journaliste, sur Jérémy Patrilétus, député intègre ou pas.
Ligne droite. Debout les Français.
Alors, Jérôme Patrilétus est le président de la commission Allonc, ou plutôt de la commission d'information sur l'audiovisuel public, mais c'est le rapporteur Charles Allonc qui a pris toute la lumière et qui a aussi réussi à concentrer sur lui toute l'ire de la gauche, toute l'ire des fonctionnaires bien installés dans leur prébende. Et le président de la commission, donc Jérémy Patrilétus, n'est pas le dernier à lui avoir mis des bâtons dans les rues. Bonjour Julie Solveig.
Bonjour Richard.
Alors, c'est un sujet que vous suivez depuis plusieurs mois pour Radio Courtoisie. Mmh. Et donc, dites-nous qui est Patrilétus, cet homme intègre, ce fervent démocrate ?
Alors, vous le disiez ce matin à l'instant, ce lundi 27 avril est un grand jour pour des millions de Français qui ont suivi effectivement avec un intérêt certain pendant près de 6 mois la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Cet après-midi à 14h30 sera en effet décidé lors d'une réunion, il faut le souligner, à huis clos, le sort du rapport de Charles Alloncle. Ce rapport sera-t-il publié ou jeté aux orties on le saura, enfin, les 31 membres de la commission statueront cet après-midi. Mais effectivement, ne soyons pas dupes et disons-le franchement, la publication du rapport est sérieusement menacée puisque près de 18 membres de la commission sur 31, donc une majorité, seraient susceptibles de voter contre. Mais il est effectivement un membre de la commission qui s'est déjà officiellement positionné sur ce sujet dans les médias en se déclarant favorable à la publication du rapport. Il ne s'agit ni plus ni moins que du président de la commission, Jérémy Patrilettus. On pourrait a priori se réjouir d'une telle position tenue, dit-il, au nom de la transparence. Puis vient naturellement une question. Pourquoi vouloir absolument annoncer cette décision dans les médias en sachant que le vote est réalisé, je le rappelle, en comité secret ? Et que donc personne n'aurait été tenu de savoir le vote de Patrilettus. À cette question naturelle vient une réponse tout aussi naturelle. C'est là où j'ai commencé à répondre à votre question, Richard, et rentrer dans le fond du sujet. Jérémy Patrilettus joue là, de toute évidence, un billard à 10 bandes. Dans la mesure où ils sont jusqu'à 18 à pouvoir voter contre ce rapport, son vote n'a pas réellement d'intérêt. Alors se déclarer favorable lui permet, d'une certaine manière, de sauver simplement sa peau. Car Patrilettus sait qu'en cas de non-publication, il sera, en tant que président hostile à la méthode Hallon, qu'il a d'ailleurs lui-même déclaré récemment à la radio, c'est lui qui prendra tous les coups, qu'il sera tenu pour responsable par une partie des Français de cette censure manifeste. Et cela ne fait pas vraiment ses affaires. Car derrière la défense de la transparence et celle de la publication du rapport, se profile en réalité une stratégie beaucoup plus large. Préserver les réseaux d'influence d'Horizon, le parti d'Edouard Philippe dont il fait partie, à l'approche de la présidentielle de 2027. En clair, défendre un rapport qu'il a pourtant torpillé comme il a pu pendant 6 mois n'est finalement qu'un simple calcul partisan de sa part.
Mais alors pourquoi a-t-il voulu torpiller ce rapport ?
Alors là, il y a plusieurs raisons. La première des raisons concerne le déroulé même de la commission d'enquête. Jérémy Patrilettus est bien gentil quand il explique aujourd'hui qu'il est favorable à la publication du rapport de Charles Halloncle au nom de la transparence. Mais qui est celui qui n'a eu de cesse de mettre des bâtons dans les roues du rapporteur, de faire des recadrages publics, de l'acculer en l'accusant de fake news ou de partialité ? Qui a usé de multiples reprises de son pouvoir de président de la commission pour interrompre les travaux, suspendre les auditions et mettre son grain de sel dans une foultitude de questions posées par Charles Halloncle ? C'est bien lui. Rappelons ensuite que Patrilettus a fait suspendre, pendant plus d'un mois, les travaux de la commission, dont le temps est limité par l'ordonnance de 1958. Comme le stipule le règlement des commissions d'enquête, ces commissions ont un caractère temporaire et ont un délai maximal de 6 mois à compter de la date de leur création. Le président macroniste, issu de la majorité, a donc fait perdre à minima, un sixième des travaux qu'aurait pu réaliser Charles Halloncle. Il lui a par ailleurs imposé, rappelons-le, à partir de janvier, une interdiction claire et nette de communiquer ses travaux et une diète médiatique que Patrilettus ne s'est pas appliquée à lui-même. On peut également rappeler la manière dont Patrilettus a réellement gêné, par son ton, ses méthodes, les travaux de Charles Halloncle. Il a suspendu des séances quand les questions semblaient trop sensibles, nous y reviendrons, ou interrompu sans cesse le rapporteur lors de certaines auditions sans que cela ne se justifiait. Je vous propose d'ailleurs d'écouter un extrait de Charles Halloncle, visiblement assez agacé pendant la commission par les manières de Patrilettus.
Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me laisser poser mes questions sans reformuler les termes, sans m'interrompre, sans poser une question à l'issue? Est-ce qu'il y a un moment où, dans mon rôle de rapporteur, vous allez lui donner un peu de respect et me laisser poser mes questions directement aux interlocuteurs et aux personnes auditionnées, sans systématiquement me reprendre et me dire quelles questions méritent d'être posées et quelles questions, en fait, ne méritent pas d'être posées? Parce que là, ça fait à peu près depuis le début de cette audition qu'à chaque fois que je pose une question, quasiment 2 fois sur 3, vous me reprenez. Donc je vais vous demander une fois pour toutes, j'ai été, je pense, assez poli lorsque je vous ai formulé cette demande, je la fais de façon plus insistante, laissez-moi, une fois pour toutes, posez mes questions, s'il vous plaît.
Pour finir sur cette manière dont le... Oui, il était agacé, je crois. Pour finir sur cette manière dont le président de la commission d'enquête a cherché de manière, disons, assez maligne à torpiller le rapport, il faut bien comprendre que ce temps perdu avec la suspension longue des travaux, et encore, je n'ai pas rajouté les vacances scolaires, les élections qui, au total, auraient fait perdre jusqu'à 2 mois de commission. Donc la suspension des travaux, celle de certaines séances, ce temps perdu avec ces interruptions intempestives de questions et ces rappels à l'ordre a eu un impact réel en réalité sur le rapport et sa rédaction. Jérémy Patrilettus n'a en effet laissé finalement que 10 jours à Charles Halloncle pour rédiger un rapport de 500 pages, là où normalement, dans toutes les commissions d'enquête, le rapporteur dispose d'au moins 1 mois. De son propre aveu, Charles Halloncle révèle au micro de Sud Radio que cela l'a mis en grande difficulté et il juge cela comme une entrave dans les travaux de la commission.
Alors, comment expliquez-vous que le président de la commission d'enquête ait pu chercher à torpiller sa propre commission ?
Eh bien, à cela, il y a une raison peut-être toute bête, tout simplement pour rendre service aux copains. Rappelons d'abord cette note dont nous vous avons beaucoup parlé. Radio Courtoisie était d'ailleurs la première radio à avoir révélé ce scandale. Cette note confidentielle révélée par le blog CGC Média du syndicaliste Jean-Jacques Ordival, que vous allez recevoir demain, il me semble.
Tout à fait.
Dans cette note confidentielle, transmise par France Télé aux personnes auditionnées et appartenant au groupe public, il est clairement indiqué, écoutez bien, qu'il existe une possibilité de poursuite pour faux témoignage, mais que le parquet ne peut être saisi que par le président de la commission, donc Patrick Lettus, qui, je cite, « en l'espèce, est favorable à France Télé ». C'est écrit noir sur blanc dans la note. Donc, si on raccroche les wagons, Patrick Lettus, favorable à France Télé, serait également favorable à un rapport qui révèle les graves dysfonctionnements et gabegies de ce même groupe. Cela n'est pas du tout sérieux. Mais du coup, une autre question se pose. Pourquoi Patrick Lettus serait favorable au groupe public ? Eh bien, tout simplement, parce qu'il est juge et parti. Quand vous faites un tour sur la base de données de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, voilà ce qu'on apprend. Jusqu'à très récemment, le président macroniste de la commission d'enquête a été administrateur de Radio France et de LCP jusqu'en juin 2024. Mais surtout, on apprend que Patrick Lettus est aujourd'hui toujours aujourd'hui, administrateur de France Média Monde, le groupe de services publics qui réunit entre autres la chaîne d'information France 24 et la radio RFI. Patrick Lettus n'est donc pas un simple président, quoi qu'il en dise, il est également juge et parti. Il est au cœur même des structures qu'il est censé contrôler de manière impartiale. Comment peut-il se montrer impartial vis-à-vis d'une société où il a lui-même un rôle en tant qu'administrateur ? De même, rappelons également que Patrick Lettus s'est retrouvé à auditionner l'ancien ministre de la Culture Franck Riester, chez qui il a fait ses classes. Certains n'hésiteraient donc pas à parler de conflit d'intérêts pour moins que ça.
Alors, vous parliez tout à l'heure de tous les incidents qui ont émaillé cette commission. Il y en a un particulièrement qui a marqué les esprits, celui où Jérémy Patrick Lettus s'est, lui, sévèrement emporté contre Charles Alloncle. Ce dernier l'interrogeait justement sur les liens potentiels que Jérémy Patrick Lettus pouvait avoir avec Media One, donc l'une des sociétés possédées par un milliardaire gauchiste, première société de production à bénéficier des contrats avec France Télévisions. Est-ce qu'il y a là un autre conflit d'intérêts à imputer à Jérémy Patrick Lettus ?
Alors oui, pour nos auditeurs, pour le rappel, c'était le 4 février dernier. Ce jour-là, en commission, Charles Alloncle interroge Jérémy Patrick Lettus sur des liens potentiels qu'il aurait avec la société de production Media One, majoritairement détenue, selon le rapporteur, par un fonds d'investissement américain, KKR. Ni une ni deux, à peine la question posée, Patrick Lettus s'emporte, sort de ses gonds à l'évocation de Media One et de KKR et finit par suspendre l'audition. Je vous propose d'écouter la séquence.
Mais monsieur le Président, j'ai l'impression que vous voulez défendre à corps et à cri Media One, et j'ai l'impression que vous faites le porte-parole de Media One. Je dis depuis le début que Media One est une société qui est détenue en majorité capitalistiquement par un fonds d'investissement américain KKR. C'était d'ailleurs l'une des révélations de cette commission d'enquête. Que vous ayez des liens, on le verra peut-être, avec des actionnaires de Media One, vous pourrez en répondre. Mais Media One est détenu en majorité par un fonds d'investissement américain.
Merci.
C'est tout ce que je dis.
D'accord.
Et je ne comprends pas pourquoi vous expliquez que ce que j'explique est factuellement faux.
Merci monsieur le rapporteur. Vous venez de porter des accusations très graves contre moi en disant que j'avais des liens avec Media One, ce qui est absolument faux.
C'est une question.
Faux.
Pourquoi
donc
vous me répondez à chaque fois?
Merci, messieurs les ministres.
Mais non, mais Jérémy, franchement, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu t'interromps?
Monsieur le rapporteur, je viens de...
J'avais encore plein de questions à poser.
Je viens de suspendre cette audition.
Excédé, presque menaçant, Patrick Lettus nous assure là n'avoir aucun lien, ni avec Media One, ni avec KKR. Sauf que, à y regarder de plus près, l'affaire n'est pas aussi évidente. Du moins, KKR n'est pas du tout un fonds inconnu à Jérémy Patrick Lettus. Pour le comprendre, il faut revenir quelques années en arrière. Comme le rappelle le blog CGC des médias qui a consacré un long billet, Jérémy Patrick Lettus a en effet eu un rôle central dans la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame.
Ok, ça c'est vraiment du billard à 10 bandes.
Oui.
Allez-y.
De fin 2019 à début 2023, il a en effet été nommé directeur de la communication, du développement, de la programmation culturelle et du mécénat au sein, pareil, accrochez-vous, de l'établissement public chargé de la conservation et de la restauration de Notre-Dame de Paris. Ça s'est posé. En clair, Patrick Lettus a donc géré en grande partie la mobilisation des donateurs, la collecte des fonds et les relations avec les mécènes privés. Dans ce cadre, Jérémy Patrick Lettus a travaillé avec une dame qui s'appelle Marie-Monique Stekel, qui a alors lancé un fonds de collecte pour Notre-Dame aux États-Unis, collectant des dons américains pour les transmettre. Et parmi ces gros donateurs privés, on retrouve, je vous le donne en mille, Henri Kravis, cofondateur de KKR, qui a fait un don de 10 millions de dollars via KKR. Jérémy Patriletus sait donc parfaitement qui sont les cofondateurs de KKR, aujourd'hui actionnaire très important de MediaOne.
Eh ben, le monde des macronistes est décidément petit et bourré de rencontres. Vous nous parliez d'histoire de sous. Il semble en plus que Jérémy Patriletus était lui-même directement soupçonné d'enrichissement personnel via des fonds parlementaires.
Eh bien, vous me damez le pion, Richard. Effectivement,
parce que j'ai lu l'Incorrect.
C'est effectivement une information publiée le 12 février dernier par le magazine L'Incorrect. Selon le magazine, le député Horizon a reçu en avril 2025, dans sa boîte aux lettres, un courrier salé du déontologue de l'Assemblée nationale. Ce dernier a alerté le député sur un risque théorique d'enrichissement personnel indirect via l'utilisation de ses frais de mandat pour un logement parisien. Selon un témoin entendu par l'Incorrect, je cite, « tout l'argent de l'AFM, l'avance de frais de mandat, qui a changé depuis de nom, et pour lui, il paye son jardinier, sa femme de ménage, son logement à Paris, etc. » Notons quand même que c'est Patriletus lui-même qui a saisi le déontologue pour vérification préalable. Son objectif était de vérifier si le montage qu'il avait effectué au prévu restait dans les clous.
Alors pour finir, nous sommes à quelques heures désormais du vote crucial sur le rapport à Long. Sera-t-il publié ou pas? Mais déjà, plusieurs éléments semblent avoir fuité.
Alors là-dessus, il faut justement rester extrêmement prudent. Ce week-end, Charles Long a en effet dénoncé la diffusion de nombreuses fausses informations qu'il estime être une manœuvre grossière de certains députés, sans donner de nom, pour discréditer le rapport et justifier ainsi un vote défavorable. Mais tout de même, une information révélée hier soir par Le Figaro nous apprend ce que nous avons évoqué plus haut. Dès l'introduction de son rapport, le rapporteur épingle Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, mais aussi Jérémy Patriletus, pour avoir entravé, dit-il, son enquête. Si cela devait se conclure par un vote défavorable, alors cela serait quasiment sans précédent dans l'histoire de la Ve République, mais cela constituerait surtout un fait d'une extrême gravité, puisque là, cela reviendrait à faire comme si la commission n'avait jamais existé. Et pour paraphraser le principe qui a guidé le rapporteur tout le long de ses travaux, l'argent public est une affaire publique. Et les Français ont encore le droit, selon moi, de savoir comment est utilisé leur argent.
Merci beaucoup,
merci.
Julie Solveig.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite, avec Richard Decaize.
Et c'est presque le moment de nous quitter. Vous avez été encore nombreux à nous écouter. Vous êtes 1,5 million en fait à nous écouter chaque semaine, tous canaux confondus. Vous êtes un peu moins de 20 000 à donner. C'est un défi que nous vous lançons. Rejoignez la cohorte des valeureux qui nous soutiennent.
Et pour nous rejoindre, c'est très simple en fait. Vous avez deux grandes méthodes. La première, c'est d'aller sur soutenir.rc.fr, hein, sur internet, soutenir.rc.fr. Ou alors de nous envoyer des chèques au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris, en libellant vos chèques bien sûr à l'ordre de Radio Courtoisie. Et n'oubliez pas, Radio Courtoisie ne vit que grâce à vous. Si vous découvrez cette radio ou cette émission par exemple, et bien sachez que nous refusons toute ressource publicitaire, toute subvention pour avoir une liberté de ton inégalée et de ne pas être obligé par exemple de subir des pressions de nos annonceurs ou ce genre de choses. Nous sommes libres, aidez-nous à rester libres. soutenir.rc.fr, merci.
Voilà, soyez libres vous-même en nous aidant à nous rester libres. Et avec toute cette liberté, on fait d'excellentes émissions.
Absolument, comme dans quelques instants, vous allez pouvoir suivre le monde de la philosophie des Lits de Thoras avec Rémi Soulier, philosophe, comme invité. À midi, le libre journal de la transmission de Valérie Daubigny, atelier Cyrano des puzzles éducatifs. À 14h, le libre journal des cultures et de l'exploration de Pascal Maurer, s'abandonner à l'aventure en famille sur la diagonale du vide au programme. À 16h, populaire, vous avez dit populaire, de Renaud Dourges. À 16h30, en toute bonne foi, de France Andrieux. À 17h, vous pourrez suivre culture et politique de Richard Haddad et Pierre Henry pour la Lotharingie et son enjeu géopolitique pour hier, aujourd'hui et demain. 17h30, rendez-vous avec Pierre-Alexandre Bouclet pour le Restons Courtois d'aujourd'hui. Un rendez-vous avec François Bousquet et le rendez-vous de la réinformation. 19h30, le libre journal du lundi soir de Thierry Lenz. Et à 21h30, à 21h30, la soirée musicale avec la suite des génériques proposés par Claudia. Vous voyez, on en fait des choses.
Ben, c'est absolument génial. Nous, demain matin, nous recevrons Nicolas Dupont-Aignan pour le livre qu'il vient de faire paraître, où il a évidemment un projet pour la France. Nous recevrons aussi Jean-Jacques Cordival, le syndicaliste de France Télévisions, qui n'a pas l'air d'être totalement d'accord avec tout le monde. Et bien sûr, Mériadec Raffray, en chair, en os et en voix, viendra nous parler d'actualité internationale.
Bonne journée à tous et à demain.